Bonjour, merci pour votre fidélité. Bienvenue à votre émission Parole au présent, c'est Claude Julien qui vous parle. Je suis en compagnie de Francine Robert. Francine est professeure, comme vous le savez, à l'Institut de pastoral des Dominicains à Montréal. Nous allons ce matin regarder la première lecture qui est proposée à la liturgie catholique et sûrement dans les autres églises qui ont le même lectionnaire que nous. Cette première lecture, elle est extraite du livre des Actes au chapitre 2, c'est le récit de la Pentecôte. Et avant de l'entendre, nous aimerions attirer votre attention sur quelques points, car vous savez combien depuis notre tendre enfance, nous avons en tête des images à un point tel que parfois on écoute sans vraiment entendre.
C'est vrai, Claude, vous avez bien raison. Il y a une iconographie tellement vaste sur le récit de la Pentecôte qui est toujours, d'ailleurs, l'iconographie, toujours sur la première partie du récit, c'est-à-dire dans la maison avec des personnages qui ont une petite flamme de feu au-dessus de la tête. Et les images nous amènent à prendre au premier degré ce qui est raconté dans le récit, alors que, vous le verrez, Luc précise que ce sont des images. Hein. C'est un bruit comme un vent. Ce sont des langues comme du feu. Donc, c'est comme, c'est une métaphore. Alors, on doit se méfier là du premier degré. Hein. J'attire l'attention aussi sur le fait que nos images nous placent toujours dans la maison, mais il y a deux étapes dans le récit. Une première dans la maison et ensuite dehors avec la foule. Et cette deuxième partie du récit, elle est beaucoup plus longue que la première, bien que dans la manière dont elle est coupée pour le lectionnaire, c'est sûr que la partie dehors n'est pas aussi longue qu'elle l'est dans le livre des Actes des Apôtres. Bon, il y a un autre élément que j'aimerais signaler aussi, puisque je pense qu'un auditeur averti en vaut deux. Qu'est-ce qu'on voit dans nos images? On voit les 12 et Marie. Mais cela, Luc ne le précise pas. Au contraire, c'est très ouvert. Dans la suite, on va nous dire que Pierre et Léonce sont là, mais jamais Luc va... Luc étant l'auteur du livre des Actes, jamais Luc ne va dire qu'ils sont seuls. Par contre, au début du récit, Luc dit qu'ils se trouvaient réunis tous ensemble. Et ce « tous ensemble » renvoie à ce qui précède dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1. À partir du verset 15, il y a un groupe large d'environ 120 disciples qui sont réunis avec les 11 pour choisir un 12e en remplacement de Judas. Vous voyez, Claude, si Luc laisse son texte ouvert comme ça, en disant qu'ils se trouvaient réunis tous ensemble, on n'est pas invité à le restreindre dans notre imaginaire. Il y a aussi au verset 14 hein, du chapitre 1 où on parle des 11 qui sont avec d'autres disciples, avec des femmes disciples, avec Marie. Donc, j'invite les gens à élargir leur image à mesure qu'elle se construira en vous écoutant nous lire le récit.
Un autre détail aussi, Claude, souvent les gens disent « à la Pentecôte, les disciples étaient enfermés parce qu'ils avaient peur ». Ça vient pas du tout du récit de la Pentecôte. Ça vient du récit de l'apparition aux disciples dans l'Évangile de Jean, au chapitre 20. Et c'est dans ce récit-là que les disciples sont enfermés parce qu'ils ont peur. Dans ce récit-là, Jésus souffle sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Donc, les gens ont tendance à mettre ensemble les deux récits du don de l'Esprit, celui dans Jean où c'est le ressuscité lui-même qui le donne au groupe, et celui de Luc dans les Actes où l'Esprit est donné après l'Ascension. Donc, ce sont deux récits différents, simplement parce que Jean et Luc ont chacun une manière différente de présenter le don de l'Esprit Saint.
Pourriez-vous nous donner aussi tout de suite les trois points que vous aimeriez traiter
oui,
sur ce texte,
sur ce récit-là,
sur ce
oui.
Récit, oui.
Peut-être les gens pourraient observer, en vous écoutant, quel est l'effet que produit l'Esprit sur le groupe des disciples qui est là. Un deuxième point sur lequel le récit va beaucoup insister, et moi aussi, c'est la dimension universelle de ce texte. Et un troisième point qui va peut-être apparaître plus étrange, est-ce que vous voyez des liens entre les images qu'on a dans notre récit et les images que vous avez peut-être du don de la loi au Sinaï? Vous savez, les 10 commandements. Je pense entre autres au bon vieux film avec Charlton Heston, les 10 commandements. On en a des images. Est-ce qu'il y a des liens entre les images qu'on a du Sinaï et le récit de la Pentecôte dans le livre des Actes?
Je fais donc lecture immédiatement au chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres. Comme s'accomplissait le jour de la Pentecôte, le 50e jour après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble dans un même lieu. Et il arriva soudain du ciel un bruit semblable à un souffle violent, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et leur apparurent des langues semblables à du feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis d'Esprit Saint, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait, habitant à Jérusalem, des Juifs fervents issus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Lorsque le son se produisit, la foule se rassembla. Ils étaient dans la confusion, parce que chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Stupéfaits, étonnés, ils disaient, « Mais ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle? » Partes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, des bords de la mer Noire, de la province d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, de la Libye proche de Cyrène, Romains résidant ici, Juifs de naissance et non-Juifs convertis au judaïsme, Crétois et Arabes, tous, nous les entendons proclamer dans nos langues les merveilles de Dieu.
Alors, comme vous voyez, donc, deux parties. Une partie dans la maison avec le groupe large des disciples qui reçoivent l'Esprit et une autre partie du récit dehors avec la foule. Si on avait lu le récit au complet, incluant les réactions de la foule, on verrait que Luc nous dit, d'une certaine manière, de nous méfier de l'impression que nous avons qu'il se passe là un merveilleux qui est évident pour tout le monde. Si on voit la suite, au verset 12 et 13, « Les gens déconcertés et perplexes se disaient les uns aux autres « Qu'est-ce que c'est ?» Donc, ça n'est pas évident. Et d'autres font de l'ironie en disant « Ils sont pleins de vin doux ». Il y avait du vin, d'ailleurs, qu'on buvait dans les rites de la liturgie juive de la Pentecôte. Alors, on va se rendre compte que le récit de Luc est plus long pour ce qui se passe dehors que pour ce qui se passe dedans. Autrement dit, il essaie d'attirer l'attention des lecteurs sur l'auditoire et nous dit de ne pas considérer l'événement de l'effusion de l'Esprit ni comme une manifestation évidente de Dieu, ni comme un truc en serre chaude pour les disciples. Hein, ça doit tourner vers la foule.
Et c'est là que Pierre va intervenir pour en faire une interprétation,
oui,
finalement.
Oui, pour donner le sens d'un événement qui n'est pas si clair à première vue. Alors, il y a un long discours de Pierre qui va nous permettre d'aborder le premier aspect que vous annonciez. Quel est le rôle de l'Esprit? Quel est l'effet que l'Esprit produit sur le groupe des disciples? C'est les faire parler. Hein. Je rappelle le verset 4. Tous remplis d'Esprit Saint, ils se mirent à parler en d'autres langues. Donc, l'Esprit fait parler. Et ça joue hein, ici sur plusieurs sens du mot « langue ». Ça fonctionne en grec de la même manière qu'en français. Hein. Ce mot qui est « glossa », en partant d'où notre mot « glossaire », par exemple. Ce mot « glossa » veut dire, comme en français « langue », ça peut désigner un langage, la langue française, la langue anglaise ou la langue grecque. Ça peut désigner le muscle qui nous sert à parler, que nous avons dans la bouche, et par extension, des choses en forme qui rappellent la langue, le muscle de la langue, et donc on peut parler de langue qui ressemble à du feu. Donc, Luc joue là-dessus, hein, le langage, la parole et la forme de l'esprit.
Et c'est là que Pierre, donc, intervient.
Oui.
Et comme on dit, c'est lui qui va interpréter, il va donner le sens de l'événement.
Tout à fait. Mmh. Et son long discours que j'inviterai nos auditeurs à lire au chapitre 2, on pourrait le focaliser en deux points majeurs. Le tout premier point, il va associer le fait de parler d'autres langues au don de l'esprit, très clairement, en citant le prophète Joël. Peut-être pourriez-vous nous lire, c'est au verset 16 à 18.
Oui, voilà, Joël, je pense qu'il cite le chapitre 3, c'est le prophète Joël. Donc, référence au Premier Testament. Et l'on lit donc au prophète Joël, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles seront prophètes. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Sur mes serviteurs et sur mes servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils seront prophètes. » Et je m'empresse de dire que je n'ai pas adapté la traduction pour inclure les filles et les servantes. C'est vraiment dans le texte.
Absolument, oui. Ce qui est assez rare parce que le grec pratique le masculin inclusif la plupart du temps comme le français. Donc ici, Pierre, citant Joël, choisit un texte qui montre la libéralité du don de l'esprit. Hein?
C'est ça, je le répète, là, hein, les fils et les filles, les serviteurs et les servantes.
Oui, et les jeunes et les vieux aussi. Ouais. Il n'y a pas d'exclusion.
Ben voilà.
Ça, c'est intéressant. Donc, ça montre bien que si on restreint trop notre imaginaire à un petit groupe, non seulement on n'est pas fidèle au récit de Luc, mais on n'est pas fidèle non plus à ce que Pierre va citer chez le prophète Joël. Le don de l'esprit, il est large et c'est le don de prophétie, c'est-à-dire un don qui fait parler, non pas pour annoncer l'avenir, mais pour reconnaître et proclamer les actes de Dieu, hein, qui veut se faire connaître de son peuple.
Et la suite du discours,
oui, de Pierre, qu'on va pas lire.
Sur la bonne nouvelle de Jésus-Christ.
Oui. Et c'est là que, si on se dit l'esprit fait parler, il fait parler de quoi? Ben, Pierre va pas donner un cours sur l'esprit. Toute la suite du discours, on voit que l'esprit le fait parler sur la bonne nouvelle de Jésus. Il va commencer en disant « Jésus le Nazaréen, que Dieu avait accrédité auprès de vous, vous l'avez livré, vous l'avez fait crucifier, Dieu l'a ressuscité. » Et c'est un long discours où il va faire des liens avec les Écritures du Premier Testament. Et la finale 36, sa conclusion, « Que toute la maison d'Israël le sache avec certitude, Dieu l'a fait, Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Alors, on voit bien hein, que quand l'Esprit fait parler, il fait parler sur Jésus, sur la bonne nouvelle du Christ, sa vie, sa mort, sa résurrection. Et au fond, l'Esprit fait de nous des témoins du Christ, pourrait-on dire.
Et non pas des professeurs de philosophie, des professeurs qui ont un enseignement, une sagesse à dire. C'est vraiment la personne du Christ.
Oui, c'est tout à fait. Mm-hmm. Et donc, si l'Esprit fait de nous des témoins, d'ailleurs, Pierre va le dire aussi, Dieu l'a ressuscité, ce Jésus, nous en sommes tous témoins. Il a reçu du Père l'Esprit, il l'a répandu. C'est cela que vous voyez et que vous entendez. Ici, je viens de citer les versets 32-33. Hein, et ça rappelle très bien le tout début du livre des Actes, juste avant l'Ascension, quand Jésus donne au fond, ou Luc, à travers la parole de Jésus, donne le programme du livre des Actes en disant, vous recevrez une puissance, c'est une dunamis, hein, un dynamisme, une force intérieure, le mot qui est là, dunamis. Vous recevrez une dunamis, l'Esprit viendra sur vous, vous serez alors mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre.
Et cela nous amène à la dimension universelle. On est parti de Jérusalem, Jérusalem est en Judée, après ça on nomme Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre.
Oui, donc c'est ouvert très largement ici. Et comment on voit cette dimension universelle? C'est d'abord dans le fait que l'Esprit fait parler d'autres langues. Autrement dit, pour Luc, l'événement de naissance de l'Église, c'est l'Église vient au monde avec sa vocation missionnaire, qui est de proclamer la bonne nouvelle à une humanité très diversifiée. Et c'est pourquoi le récit insiste beaucoup sur l'outil de la vocation, c'est parler. Et c'est parler des langues que les gens peuvent comprendre. Et je précise ici, c'est bien autre langue qui est dans le texte, là, hétéro pour autre. Hein. C'est au pluriel hétérès, glossès, donc autre langue. Ce qui est très différent d'un autre phénomène que peut-être les gens connaissent par oui-dire, qu'on appelle parler en langue. Hein.
Très différent.
Oui, qui était prier à haute voix en son étrange que personne ne comprend finalement. D'ailleurs, Paul va décrire ce phénomène-là à ses chrétiens de Corinthe et il a un point de vue un peu critique. Hein. Si les gens qui s'intéressent, ce sera au chapitre 14 de la première lettre aux Corinthiens, hein, où il va dire, par exemple, « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. »
Bon. C'est très différent.
Oui. Alors ici, il s'agit bien de parler d'autres langues. Hein. Bon, on pourrait dire qu'il y a une sorte de miracle, là. C'est possible que ça soit passé comme ça. On aurait peut-être juste deux petits problèmes sur le miracle lui-même. Mais bon, on pourrait se dire, comment est-ce que les gens qui étaient dehors pouvaient entendre ceux qui parlaient dans la maison, puisqu'ils sont encore dans la maison quand ils se mettent à parler d'autres langues. Et l'autre point surtout, Luc insiste pour dire que les auditeurs sont tous des Juifs. Je mettrais une nuance. Tous des Juifs, mais nés dans d'autres pays.
Il y a toute une liste là, où on fait le tour du bassin méditerranéen.
Exactement. Donc, des Juifs qui sont nés dans des pays où la langue n'est pas l'araméen, mais d'autres langues. Et donc, leur langue maternelle, elle est autre. Et Luc ajoute « des étrangers convertis au judaïsme ». C'est comme ça que je l'ai formulé. Dans le texte grec, c'est un seul mot, ce sont des prosélytes. Hein, donc, des non-Juifs convertis au judaïsme. Et tout ce beau monde-là habite à Jérusalem. Donc, on a des Juifs de la diaspora, c'est comme ça qu'on les appelle, mais souvent, plusieurs d'entre eux venaient terminer leur vie à Jérusalem, donc s'installer à Jérusalem ou dans les environs. Donc, c'est possible que ces gens-là comprennent la langue, l'araméen. Hein. Le miracle, de toute manière, que Luc présente, n'est pas du côté des auditeurs. Hein. La performance, c'est pas entendre dans sa propre langue, c'est entendre ceux qui parlent, et eux, ils parlent dans la langue des gens. Et donc, l'esprit ne fait pas entendre, il fait parler la langue que les gens peuvent comprendre.
La nuance est importante,
oui,
je trouve.
Oui, je le pense, parce que ça veut dire que la performance, c'est une performance de parole et non d'audition. Autrement dit, ça met beaucoup de valeur sur la portée symbolique. Elle est très parlante. Que le miracle a eu lieu ou non, ça a une valeur symbolique majeure. Ça montre la visée de Luc ici. C'est l'Église qui est responsable d'annoncer la bonne nouvelle dans une langue que les gens comprennent. Hein? Dans une langue qui respecte la diversité. Et on sait tout le monde qu'une langue, c'est une culture. Je pense au débat actuel autour de la langue, là. On sait que c'est pas juste des mots, une langue, c'est une culture. Alors, c'est la responsabilité de l'Église, selon le récit de Pentecôte, de dire la bonne nouvelle dans la diversité des langues et des cultures. Et à ce titre-là, Claude, on pourrait signaler que, contrairement à ce qu'on entend souvent, le récit de Pentecôte n'est pas un anti-récit de la Tour de Babel. Hein. Tour de Babel, tout le monde parle une langue et à la fin, c'est une diversité de langues, les gens ne se comprennent plus. Ici, on revient pas à une seule langue. Au contraire, ça annule pas la diversité des langues, la Pentecôte. Ça dit que la diversité des langues n'est pas un obstacle à la communication. Et la bonne nouvelle peut rejoindre chacun là où il est, là où il a les pieds, dans sa langue et dans sa culture. C'est ça le fruit de l'esprit pour Luc. Hein? C'est la capacité de témoigner de Jésus d'une manière où on peut se faire comprendre à des gens très différents que pour eux aussi, c'est une bonne nouvelle. Alors, je dirais, c'est adapter, c'est rendre accessible, c'est rendre intelligible. Hein?
C'est ça. Donc, le témoin doit, de certaine façon, si on l'applique aujourd'hui, doit s'appliquer à connaître la langue du peuple, de la nation, là où il va.
Absolument. Et la culture, les schémas de pensée, les références culturelles, etc. Ici, remarquez, je vais mettre une petite limite à cette réflexion sur l'universalité. Dans le récit, on reste à l'intérieur d'Israël. Hein? J'ai souligné que l'auditoire, ce sont des Juifs de la diaspora et des étrangers convertis au judaïsme.
Mais on va en sortir lentement.
Oui, absolument. Et pour Luc, c'est déjà symboliquement l'ouverture à toutes les nations. Et on verra dans toute la suite du livre des Actes, que ça va passer donc en Samarie, ensuite à des non-juifs, à des Grecs, à Antioche et partout jusqu'à Rome à la fin du livre. Hein. Et donc, l'Église créée par l'Esprit, pour Luc, elle est missionnaire et responsable de proclamer la bonne nouvelle à l'humanité tout entière.
Bien, le troisième aspect, ce sont les liens qui existent entre les images du récit et le don de la loi au cinéma.
Oui, le récit du don de la loi, et je parlais du film avec Charlton Heston, puis on voit, enfin moi je vois les images de feu qui descendent là, pour graver dans la pierre. J'aime bien ces vieux films, personnellement, Claude. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que Luc introduit son récit avec une date et il l'introduit avec une formule solennelle, comme s'accomplissait le jour de la Pentecôte. C'est une formule solennelle. Il aurait pu dire « et le jour de la Pentecôte ». Non, comme s'accomplissait le jour de la Pentecôte. Donc, il attire notre attention sur le fait que le jour de la Pentecôte, qui est une fête juive, ça peut ajouter un surplus de sens à l'événement lui-même. Alors, qu'est-ce que la Pentecôte? D'abord, avant d'être une fête chrétienne, c'est une fête juive, c'est encore une fête juive qui a lieu 50 jours après la Pâque. C'est pourquoi nous, on fête la Pentecôte demain.
Oui, et c'est bon de rappeler que le mot vient simplement de Pentecôte en grec, qui veut dire cinquantaine. Hein?
C'est ça.
C'est le 50e jour après sortie d'Égypte.
Voilà. Pour les Juifs, ça se comptait pas comme ça. C'est 7 semaines après. Hein? Mm-hmm. 7 × 7, 49. Mm-hmm. Donc, après 7 semaines. Et donc, pour les Juifs, ça s'appelle la fête des semaines ou Shavuot. Donc, c'était une des trois grandes fêtes de pèlerinage à Jérusalem avec la Pâque et la fête des Tentes. La Pâque qui avait lieu avant, la fête des Tentes qui est à l'automne. Hein. C'était une fête comme les autres, d'abord de la moisson, mais la foi juive a associé ces grandes fêtes à des événements importants du salut. Et qu'est-ce que l'on célébrait le jour de la Pentecôte juive? Eh bien, justement, on célébrait le don de la loi au Sinaï après la sortie d'Égypte qui, elle, est célébrée à la Pâque juive. C'est un événement, hein, le don de la loi au Sinaï, c'est l'équivalent de la naissance du peuple d'Israël comme peuple de Dieu. Hein. C'est le début officiel de l'Alliance. Et d'ailleurs, à la fête juive de la Pentecôte, il y avait un rite de renouvellement de cette Alliance. Alors, voyez comme c'est intéressant. Au fond, Luc s'en inspire pour présenter ce qui est pour lui la naissance de l'Église, peuple de Dieu, témoin de la nouvelle alliance accomplie en Jésus. On voit qu'il y a beaucoup de rapprochements là qui sont intéressants. Et c'est pas étonnant à ce moment-là qu'on retrouve dans son récit de la Pentecôte des images qu'on trouvait déjà au récit du Sinaï. Et oui, on a un peu de temps. Je vais vous demander, Claude, de nous lire un petit bout du chapitre 19 de l'Exode.
Dès le matin, il y eut des bruits, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne, ainsi qu'un puissant son de trompe. La montagne du Sinaï était toute fumante parce que Yahvé était descendu dans le feu. Le son de trompe s'amplifia. Moïse parlait et Dieu lui répondait dans le bruit du tonnerre.
Alors on voit, hein, c'est vraiment cinémascope couleur,
ça, du bruit,
avec surround
du feu.
Sound, excusez-moi pour l'expression anglaise.
Ouais, ouais.
C'est ça, grand bruit du feu qui descend. Et il y a une phrase étrange plus loin dans ce récit du livre de l'Exode, c'est au chapitre 20, verset 18. Tout le peuple voyait les bruits, la lueur, le son de trompe. Bon. Mais voir des bruits, c'est quand même un peu spécial. Des bruits, on les entend, on les voit pas. Et il y avait un commentaire d'un grand philosophe juif de culture grecque qui s'appelle Philon d'Alexandrie, qui était très célèbre et qui est contemporain des premiers chrétiens, hein, qui a écrit à la première moitié du premier siècle. Hein. Il a écrit et commenté cette phrase bizarre, un son que le peuple voit. Et je vous lis ce qu'il avait écrit. « Dieu avait créé dans l'air un bruit invisible, et ce bruit transforma l'air en feu de flamme. La voix retentissait au milieu du feu, dont la flamme se transformait en un langage adapté aux auditeurs. »
Mon Dieu, on voit à quel point c'est à croire que Luc aurait repris à sa manière cette
pensée
Philon d'Alexandrie.
Oui, qui essayait de montrer en monde grec à quel point la foi juive avait du bon sens, on pourrait dire. Et ça reflète très bien ici la foi juive au Dieu unique, hein, que j'ai signalé à quelques reprises ces dernières semaines pour eux, Dieu, c'est pas juste le Dieu d'Israël, c'est le Dieu de tous les humains et il essaie de se faire connaître à tous. Hein. Et donc, c'est pas étonnant si pour Philon, la voix de Dieu au Sinaï s'est transformée en un langage adapté aux auditeurs, vous voyez. Alors, on reconnaît ici hein, le travail théologique de Luc qui a placé la naissance de l'Église au jour de la Pentecôte juive. Et si je rappelle le parallèle juste pour le faire de façon systématique, Pentecôte juive, naissance du peuple de Dieu, première alliance, don de la loi. Pentecôte chrétienne, naissance de l'Église, nouvelle alliance, don de l'Esprit.
Mon invité ce matin, Francine Robert, professeure à l'Institut de pastoral des Dominicains à Montréal. Au microphone, Claude Julien, qui vous souhaite une bonne fin de semaine à notre antenne et vous donne rendez-vous samedi prochain à la même heure.